On se retrouve sur la chaîne Basket Session Rivers. Vous connaissez le point quotidien habituel sur la NBA où on décrypte les matchs et l'actualité du basket américain. Shai, t'es à mes côtés, t'es de retour, t'as bien profité de ton repos. Et là, il y a du sérieux qui t'attend parce qu'il y a deux séries, mais surtout une série. On va commencer par celle entre Minnesota et Denver. Une série épique. C'est le haut niveau du haut niveau, j'ai envie de te dire. Et Denver est revenu à hauteur de Minnesota. Victoire des Nuggets 115-107 dans le Game 4 hier. C'était le deuxième match de suite gagné par Denver. Le deuxième match gagné à Minnesota, c'est-à-dire que Minnesota a pris les deux premiers à Denver. Denver a pris les deux suivants à Minnesota. Et j'ai l'impression que le momentum a un peu changé de camp. Le fameux momentum, l'élan, la dynamique, elle est plus en faveur des Nuggets. Forcément, ils sont sur deux victoires de suite avant le Game 5 chez eux. En tout cas, c'était encore un match épique, un match que les Nuggets, ont, une fois qu'ils se sont mis au contrôle, ont dominé globalement jusqu'au bout.
C'est ça. Bah, tu vois, quand je suis parti en petit congé, il y avait 2-0 pour Minnesota. On était un peu inquiet pour les Nuggets, et puis ils ont profité de mon absence pour remettre les choses.
Ils sont ressourcés avec toi.
Voilà, je pense qu'ils sont partis. Quoi. mais oui, bah, même moi j'étais, enfin j'ai pas caché que j'étais inquiet. J'étais pas du tout certain qu'ils soient capables de revenir déjà. Bah, bon, 2-1 c'était un premier pas, et puis à 2-2 et puis de cette manière-là. Surtout avec le Game 2, on se souvient que c'était une catastrophe industrielle totale qui te laisse pas penser que ça peut vite revenir comme avant. Là, les Nuggets ont été bah, quasi parfait. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait le match presque plus que parfait. Tu peux pas faire plus parfait que ça parce que, en termes d'adresse, c'était incroyable. Ils ont shooté à 57%. Jokic a pas eu à tout faire. Il a fait beaucoup. Hein. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est du 35-7-7 en gros.
Ça, avec trois interceptions.
Avec trois interceptions.
Il a aussi le ton en défense depuis que la série est allée à Minnesota.
Voilà. Et donc, Jokic a fait beaucoup, mais n'a pas tout fait. Et surtout là, les autres m'ont semblé bien plus présent. Je pense au match d'Aaron Gordon que j'ai trouvé excellent. Il a mis, je crois qu'il a raté son premier panier à 3 minutes de la fin, mais il finit à 11 sur 12. Il était juste excellent dans le rôle qu'on lui connaît, hein, ce rôle de deuxième ou troisième lame selon les besoins. Et l'équipe entière était efficace, le banc était efficace, la défense a été efficace, l'attaque a été parfaite. Donc voilà, moi je note ça, un match parfait, avec plus des Wolves en difficulté. Comme on a pu voir Denver en difficulté, beaucoup moins que Denver sur les deux premiers matchs, mais un peu moins sûr de leur fête, tu vois. Parce que c'est un match où Anthony Edwards fait quand même 44 points, où il est percutant, il essaye de les maintenir dedans, et en même temps, ils n'ont jamais été vraiment très très près au tableau d'affichage.
Ils ont très bien commencé le match, et derrière.
Il y a le début, mais après, j'ai eu l'impression de toujours les voir à plus de 10 points. Et sur la fin, ils reviennent à 7, à moins 7, jusqu'à ce que Jokic taffe. Avec un footwork, un petit post-up comme il sait le faire. Et j'ai eu l'impression de voir les Wolves un petit peu impuissants sur ce match-là et les Nuggets plus que parfaits. Est-ce qu'ils seront capables de faire ce match-là à chaque fois, c'est une autre question. Mais au moins, on a retrouvé la vraie équipe de Denver. Ça, du coup, ça donne une série d'un niveau très, très élevé, comme tu l'as dit.
Ouais. Ouais, il y a eu beaucoup d'ajustements qui ont été attendus. Il y a le rythme. Les Nuggets jouent beaucoup plus vite, il y a une volonté de jouer beaucoup plus vite. Alors, ils n'ont pas mis 125 points, mais je pense que chaque match où Denver met 110, je ne suis pas sûr que Minnesota puisse suivre la cadence, en fait, au niveau offensif. On le voit là, il faut 44 points d'Anthony Edwards pour que les Timberwolves en mettent 107. C'est une lacune, une faiblesse qui a souvent été pointée du doigt du côté de Minnesota. C'était de se dire, bah, sur demi-terrain, quand il faut marquer des points, ça va être compliqué parce qu'il n'y a que Edwards et Kat vraiment capables de se créer leur propre tir. Un peu Mike Conley, mais bon, surtout Edwards et Kat. Kat, ça fait deux matchs qu'il déjoue. C'est les deux matchs perdus par les Timberwolves. Là, il a manqué ses sept premiers tirs entre Karl Anthony Towns. Il y en a quelques-uns, c'est pas de chance. Hein, c'est des tirs qu'il prend, qu'il met d'habitude. Mais donc, Kat est un peu moins dedans. Et dès que ça joue vite, bah déjà, Denver a beaucoup plus de paniers faciles. Hein, 57% au tir, c'est parce qu'il y en a un paquet, c'est en transition. Où ils n'ont pas le temps d'affronter une défense placée des Timberwolves qui est de loin la meilleure défense de la Ligue. Donc ça, c'était un ajustement attendu. Il y avait aussi ce côté, on a trouvé que sur les deux premiers matchs, ils étaient pas passifs, mais tu sais, très frustrés, se plaindre sur les arbitres, un peu toujours en train de pleurer. Et là, il y a ce côté, c'est bon, on arrête de pleurer, on se bat. Ils sont beaucoup plus physiques, beaucoup plus agressifs. Des fois, même à la limite, mais ça passe, tu vois. Et c'est des choses qui étaient attendues. Il y a aussi le fait que Gordon a beaucoup plus la balle en main. C'est une forte responsabilité pour lui, hein, Gordon. Gordon, il est à la fois en défense sur Kat et sur Towns. Et en plus, il doit créer, pas créer du jeu, mais voilà, depuis le match 3, on a vu que Jokic et Gordon remontent la balle pour économiser Murray parce que Murray se faisait un peu maltraiter par Jaden McDaniels et Alexander Walker. Et voilà, c'est tout ça, c'est déjà justement qui ont payé. Du coup, ça fait deux victoires de suite de Denver. Maintenant, la balle est dans le camp de Minnesota. C'est comment tu te réajustes, comment tu te réadaptes à ce que les Nuggets ont fait.
Ouais, c'est ça. Tu parlais du match de 4, qui a eu du mal à régler la mienne. Après, bon, il a évoqué après, c'est pas pour lui trouver des excuses, mais bon, c'était la fête des mères aux États-Unis. On sait ce qui est arrivé à sa mère il y a pas si longtemps. C'est un peu, on sait que c'est assez éprouvant pour lui à chaque fois. Voilà. Et donc c'est pas. Je pense pas que c'est ça qui ait fait perdre le match nécessairement aux Wolves. Rudy a pas fait un match extraordinaire non plus. Il finit en double-double, mais c'est pas le match où on l'a le plus vu à son avantage, que ce soit en défense ou en attaque. Et il a manqué peut-être des alternatives pour les Wolves. Parce que Edwards à 44 points, c'est pas forcément la solution. On l'a vu, hein, quand il est facilitateur, quand il implique aussi les autres. Là, c'est pas tellement qu'il a pas impliqué les autres de son propre chef, hein, c'est que ça c'est la physionomie du match qui a été comme ça. Dans les trucs importants, ouais, Jamal Murray, il a quand même eu encore ce. Je crois que c'est le troisième quart-temps où il repart sur le mode confiance irrationnelle, où il met des tirs improbables, il met le tir au buzzer à la fin, là, à la fin du quart-temps du milieu de terrain.
À la mi-temps, enfin, ouais.
C'est avant la mi-temps, oui, pardon, c'est pas le troisième, ouais, c'est avant la mi-temps.
Ils ont mis 8 points en 20 secondes. Et ça d'ailleurs, ça a changé beaucoup de choses, mine de rien, parce qu'il y avait 7 points d'avance et d'un coup, il y en a 15. Tu vois, c'est vraiment en 20 secondes, quoi. Ouais. Un coup de massue sur la tête des Wolves, tu repars à la mi-temps, t'es mis de 15 points, quoi. Alors qu'il y avait que 7 points d'écart, quoi.
Ouais, et Murray, après, il redevient du coup le Murray un peu cocky, un peu provocateur qu'on a vu. Ça fait des interactions assez marrantes avec Anthony Edwards. Qui a dit non, mais je lui ai dit que j'avais bien entendu ce qu'il avait dit et qu'en gros, nous, on aime ça. Il n'y a pas de problème. On va régler ça au match suivant. Donc il y a des promesses sur ce qui va se passer encore après. Là, les quatre premiers matchs ont été très très curieux. Il y a eu un peu de tout et n'importe quoi. Voilà, avec des performances désastreuses d'un côté, exceptionnellement impressionnantes de l'autre. Je suis incapable de dire ce qui va se passer, mais je suis très très curieux de voir la suite de cette série. Est-ce que Anthony Edwards va, j'allais dire, mettre ses menaces à exécution? C'est pas des menaces, mais tu sens qu'il a quand même envie de montrer des choses au match suivant. J'ai vu que c'était, je sais pas si t'as vu, mais alors je sais plus à combien de matchs il en est, mais en gros là, avec le match qu'il fait à plus de 40 points, il a plus de matchs à 40 points en carrière en playoff que Magic Johnson, Tim Duncan, Karl Malone, Carmelo Anthony, Kyrie Irving, Damian Lillard, Jason Tatum, Nikola Jokic.
C'est une stat complètement dingue, ça.
C'est une stat dingue. Alors on peut nuancer par le fait que évidemment c'est une NBA plus offensive, mais Jokic joue dans cette NBA, Tatum joue dans cette NBA, ouais, Lillard aussi, Kyrie, voilà. Ouais. Donc il est à cet âge-là, il est impressionnant, il dégage toujours quelque chose. Même dans une défaite comme ça, une défaite assez nette finalement, il dégage quand même des choses assez incroyables.
Oui, parce que la vraie nuance, ça serait peut-être de dire le nombre de victoires qu'il y a dans le lot pour sur les matchs à 40 points de Jokic, etc., et sur les matchs à 40 points d'Edwards. Mais Edwards, il va encore avoir besoin de scorer, parce que je pense que son équipe... Mais c'est là où on voit... De toute façon, Edwards, il a prouvé qu'il était une superstar. Il a prouvé qu'il était l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. Il continue de le prouver. S'il est déjà prêt à 22 ans à mener une équipe au titre, il faut qu'il ressorte encore deux matchs absolument exceptionnels. On verra s'il en est capable. Quoi qu'il arrive, je pense que Edwards, on est sur les chemins de quelque chose de très grand. Le banc des Nuggets, tu l'as dit, très bon match. Pardon, je passe complètement à autre chose. Mais c'est vrai que d'habitude, c'est le banc des Wolves qui fait une différence. Là, ça a été celui des Nuggets, notamment parce qu'en fait, les remplaçants ont joué avec Jokic. Et ça change tout, en fait.
Oui.
Jokic, il élève le jeu, parce que je continue de penser que la rotation des Nuggets, c'est ce que le monde depuis le début des playoffs, c'est le premier match où le banc des Nuggets a un vrai impact. Donc il y a eu combien de matchs jusqu'à présent? Ils en ont joué 9, il y en a eu 8 où le banc des Nuggets n'a pas forcément été bon. Là, sur ce match-là, avec Jokic, ça élève le niveau de tout le monde. Après, c'est vrai que Justin Holiday, ça fait un petit moment là qu'il commence à mettre ses 3 points et ça fait des différences. Christian Brown a fait un bon match. Christian Brown, on ne le voit pas tout le temps, mais on le voit par moment. Et là, il a fait un bon match. Ce n'était pas son premier bon match, hein, Christian Brown. Ça a eu un impact, parce que c'est dans ce passage-là, entre le premier et le deuxième quart-temps, que les Nuggets ont vraiment creusé l'écart. Je pense qu'ils passent à 26-4. Et le banc des Wolves, à l'inverse, n'a pas eu d'impact. Kyle Anderson, Nickel Alexander Walker a raté tous ses tirs, les tirs qu'il met à 3 points dans le corner. Naz Reid a mis ses points, mais on n'a joué que 19 minutes. Joué, ouais. Enfin bref, ça a été un match moins impactant de la part des remplaçants de Minnesota. Ouais,
exact.
Allez, on peut passer peut-être à l'autre série. Même si c'était un match moins disputé pour le coup, celui entre New York et Indiana. Indiana qui a roulé sur les Knicks. Les Pacers l'ont emporté 121-89. Il y avait 34-14 après le premier quart-temps. Il y avait 28 points à la pause, 38 à la fin du troisième, un moment plus de 40. Enfin bref, c'était un vrai massacre. Indiana a battu New York. 6 joueurs à plus de 10 points. Voilà.
Il y a une équipe qui était venue pour jouer, clairement, qui était en état de jouer, que ce soit mentalement ou physiquement, c'était les Pacers. Et l'autre avait l'air complètement cuite, pas du tout concerné. Est-ce que c'est à cause de... Voilà, tout le monde parle de l'éléphant dans la pièce, c'est la condition physique des Knicks, le fait que Josh Hart joue 48 minutes, que Jalen Brunson joue 45, enfin qu'il soit complètement cramé par le système Thibodeau, ce qui est possible. Mais là, j'ai eu l'impression que c'était un peu autre chose, que c'est pas uniquement qu'ils étaient cuits, c'était mentalement, ils étaient pas dans le truc, je sais pas.
Parce que mentalement, ils sont peut-être cuits, en fait, aussi.
Alors, ça joue...
Que la fatigue physique, il y a aussi la fatigue nerveuse, c'est peut-être même encore plus puissant que la fatigue physique.
Absolument, et ça, j'ai l'impression que ça explique un peu... Enfin, je sais pas si ça explique, mais ça permet de comprendre un peu ce qui s'est passé, parce que les Pacers, comme je dis depuis le début des playoffs, eux sont décomplexés, ils ont rien à perdre, ils sont déjà au deuxième tour, ce qui était pas forcément sur le plan de marche en début de saison, et quand ils sont comme ça à domicile, c'est très compliqué, parce que ils peuvent déployer leur jeu rapide, leur jeu offensif, et très très rapidement, ils les ont surclassés. Liberton, en seulement 28 minutes, il fait 20 points, 6 rebonds, 5 passes. Alors, il y a la fameuse attitude d'Haliburton dont on parlait un peu entre nous, parce qu'on a des fans d'Enix dans la rédac qui n'aiment pas trop le côté d'Haliburton à fanfaronner quand l'équipe est largement devant et être un peu moins visible quand c'est compliqué. Moi, je trouve en tout cas qu'il s'est... Même si le match a été facile, il a contribué au fait de le rendre facile et il s'est comporté comme un leader. Après, on aime ou on n'aime pas le style démonstratif, mais moi, je l'ai trouvé bon et autour, tout le monde a bien joué. Et pour Carlisle, c'est du pain béni ce match. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a joué plus de 28 minutes, tout le monde était efficace. Ça, pour un coach, c'est le rêve. T'es à ce stade-là de la série et tu vas arriver frais à New York où tu peux tenter quelque chose. Bon, comme d'hab, c'est toujours les mêmes. TJ McConnell, c'est un métronome.
Pour moi, c'est lui le patron des Pacers, TJ McConnell.
15 points, 10 passes.
C'est le chef de cette équipe.
Oui, c'est ça. Il y a de ça. Peu importe son temps de jeu, peu importe ce qu'on lui demande de faire, il est parfait. Et les autres se sont promenés aussi. Hein, Obi Toppin, qui avait déjà été bon sur des matchs, notamment sur la série précédente contre les Bucks. Miles Turner, c'est lui aussi. Enfin, 5 sur 5, il rate pas un tir. Et ça ressemblait un peu à un décrassage pour les Pacers. Honnêtement, c'est une série qu'on attendait très très intense, physique et tout. Et ce match-là n'était pas du tout dans la même lignée. Et, au moins, ça a permis à Brunson, Josh Hart, DiVincenzo peut-être de se reposer. Mais je sais pas si c'est le meilleur des repos, quoi. C'est pas le repos salutaire. C'est un repos où où Josh Hart, il fait 2 points, 3 rebonds, 2 passes, alors que au niveau statistique, il était sur ce qui se fait de mieux pour lui en carrière. DiVincenzo, il mettait pas un tir, j'exagère, il fait 3 sur 13, c'est pas fou. Brunson était à peu près le seul que j'ai trouvé en termes d'énergie un peu dedans, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Et après, à quel point est-ce que l'absence de OG Anunoby est impactante à ce moment-là de la série? Je sais pas s'ils auraient gagné avec lui, mais il apporte quand même quelque chose. Quoi. Ouais. Ça change beaucoup de choses.
Ça change tout. Mais... Ça peut être un mal pour un bien, le blowout, dans le sens où je pense qu'on aura un match quand même. Il y a eu 3 premiers matchs serrés. Les Knicks avaient presque besoin d'un blowout. On a parlé avec Théo un moment, je crois. Je sais plus si c'était en off ou lors d'un CQFR, mais on en parlait du fait qu'à un moment, il y aurait peut-être un blowout, que c'est la seule condition pour que Josh Hart y sorte. C'est qu'à un moment, il y a un blowout et c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'était écrit qu'il allait avoir un blowout à un moment pour les Knicks. Je pense qu'ils seront bien plus agressifs dans le Game 5 au Madison Square Garden, mais il y a quand même une vraie question à se poser. Alors, les Knicks sont... tu sais qu'avec le Game 5 chez eux, match en jeu, ils vont d'un coup jouer beaucoup plus fort. Mais c'est vrai que plus la série est longue, plus tu te dis que ça peut jouer en leur défaveur, parce que les Pacers, c'est l'opposition complète. C'est-à-dire que toute la rotation participe, et j'ai même envie de te dire le vrai point fort des Pacers. Je le disais, je trouve que McConnell est leur patron, mais je pense que c'est peut-être la seule équipe encore en course pour laquelle en fait tu dois schématiser quelque chose contre leur banc, parce que ce qu'il faut que t'empêches, c'est le banc des Pacers. Mmh. Alors là, les titulaires ont fait le boulot, hein. Ils ont commencé très fort, ils ont mis tous leurs tirs. Haliburton, Siakam, c'est fort, mais le banc, parce que notamment Siakam joue avec le banc, quant à Siakam et les remplaçants, c'est ça, en fait, c'est là où les Pacers ils te font vraiment, vraiment mal. Et les Knicks, avec la fatigue, tu sais qu'il y aura forcément des baisses de régime, même en, quand tu as ton 5 majeur, hein, quand tu as Hart, il y a des moments, ils ne peuvent pas jouer 48 minutes à fond. Il y a des temps faibles du côté de New York, et c'est ce qui explique aussi pourquoi Indiana, dans les premiers matchs, a été souvent devant, et New York a fini très fort, tu vois, mais il y a des temps faibles. Et le risque, c'est qu'en fait, du côté d'Indiana, il y a pas de temps faible, quoi. Il y a pas de temps faible. T'as tes meilleurs joueurs, t'as ton 5 majeur, t'as tes remplaçants, c'est eux qui jouent mieux. C'est pas les meilleurs joueurs, mais c'est eux qui jouent mieux. Et ouais, plus la série est longue, plus il y a des risques de temps faible avec la fatigue, les blessures. Si Anunoby il revient pas, par contre, c'est un game 5 tout de suite beaucoup plus compliqué, quoi. Parce que en plus, l'alternative, c'est de mettre Precious Achiuwa qui est sur un poste qui est pas vraiment le sien. Enfin, c'est vraiment, c'est très très particulier ce qui se passe à New York. Et je sais pas dans s'ils se qualifient, je sais même pas dans quel état ils arriveraient. mais je sais que, voilà, que longtemps beaucoup imaginent un New York gêné Boston. Là, je pense que dans l'état, ils prennent pilule sur pilule. Là, je vois pas comment le cœur, c'est beau, mais ça a des limites aussi, quoi.
C'est compliqué. Ouais, je suis d'accord parce que là, ça ressemble quand même à une série qui risque de finir en 7. J'ai un peu ce feeling-là maintenant, en les voyant très très agressifs à domicile et en confiance. Et à contrario, les Pacers, pareil. Enfin, les Pacers sont, on l'a vu à domicile, ils peuvent déployer vraiment leur jeu. Si chacun remporte le match qui arrive à domicile, bah ça nous donne un match en 7. Et tu ressors d'une série en 7 dans quel état, c'est aussi la question. J'attends quand même la réaction d'Enix sur le match suivant. On va dire que c'était le fameux blowout que vous aviez effectivement annoncé dans un CQFR. Je l'avais regardé. Donc à voir sur le suivant. Ouais.
Non, mais ils vont jouer. C'est sûr qu'au Garden, ça va être une toute autre équipe d'Enix. Hein. Ça va être d'un coup un match. Ils vont être portés par le public. Brunson, il va être incandescent. Hart, il va rejouer 48 minutes. Ça va être autre chose, hein, c'est sûr. Ouais. Mais voilà, à voir sur la durée quand même pour New York. Ouais. On peut peut-être finir avec la draft. Il y a eu la loterie hier soir. Je vais donner le top 10 et je te laisse après me donner tes impressions. Donc, c'est Atlanta qui a récupéré le premier choix. Improbable. Il n'y avait que 3% de chance qu'Atlanta ait le premier choix. Ils ont quand même fini en 36-46. Ils ont quand même joué le play-in. Ils ne sont pas passés loin de jouer les play-offs. Le fait de ne pas être qualifié en play-off les a mis dans la loterie. Et du coup, ils ont ce premier choix. La dernière fois qu'ils ont pioché en première position, c'était en 1975. Ils avaient choisi David Thompson. Et tu sais ce qu'il avait fait ?
Il était parti à Denver, mais oui, il était parti en NBA.
Il n'est pas joué en NBA pour Atlanta.
Formidable, voilà, formidable Atlanta, joueur au passage. Hein. Fantastique joueur, David Thompson, le modèle de Michael Jordan. Mais bon.
Multiple All-Star.
Vas-y, je t'en
prie. Du coup, Atlanta en 1, ouais. Washington en 2. Washington qui a fait une saison terrible et qui se retrouve avec ce deuxième choix. Houston en 3, parce que c'est le choix des Nets. Ça me permet, on a très souvent des questions. Le CQFR du samedi, on en a encore une. Est-ce que les Nets doivent tout reconstruire ? Je vous le rappelle, du coup, les Nets n'ont pas leur pic. L'illustration, il n'y avait que 20% de chance quand même que Brooklyn termine dans le top 3. Brooklyn n'avait pas fait une saison si mauvaise que ça, même si c'était une saison très décevante. Eh bien, ils ont eu du bol à la loterie, mais l'ironie, c'est que ça va à Houston. Donc, Houston a le troisième choix de la draft. San Antonio 4, Détroit 5, sacré poisse quand même. Pire bilan de la Ligue, tu finis 5e. Charlotte 6, Portland 7. Donc, pareil, Portland qui ne pioche pas dans le top 3, top 4 en ayant fait une mauvaise saison. San Antonio 8 à nouveau, ça c'est un choix via...
Toronto,
merci. Ouais. Toronto qui avait pourtant tenté de garder son pic, mais non, ce n'est pas passé. Donc San Antonio 8, donc San Antonio qui aura deux choix dans le top 10, Memphis 9 et Utah 10.
Ouais, voilà, ce top 10, ça fait partie des années où il y a un faible pourcentage qui arrive en tête. On se souvient des saisons avec Derrick Rose, notamment du côté de Chicago. Il y avait quand Penny Hardaway, Kyrie, c'était pourcentage faible. Penny Hardaway au Magic, bon, faut remonter un peu, mais c'était très très faible pourcentage. Alors là, la différence, c'est qu'il n'y a pas de numéro 1 vraiment à très très affirmé. On aura le temps d'y revenir prochainement sur les profils des joueurs qui vont se présenter. Mais c'est une classe qui est annoncée comme, alors j'aime pas dire faible, c'est juste sans leader très identifié, mais ça peut être très profond. Il y a beaucoup de talents internationaux aussi dedans, donc je pense qu'on n'a pas assez étudié cette classe pour pouvoir dire avec certitude c'est une draft faible ou machin. Mais là, c'est très intéressant que ça arrive à Atlanta quand même, parce qu'on parlait de cette équipe comme potentiellement sur le point de, bah, d'exploser dans le sens beaucoup de transferts, est-ce qu'ils vont séparer le duo Trae Young, Dejounte Murray. Là, ça donne des options. Et l'un des numéros 1 les plus souvent évoqués, ça reste Alexandre Sarr, le Français. Et typiquement, il a le profil pour être au moins à minima utile à une équipe comme Atlanta, avec le, bah, ce profil de protecteur de cercle, d'intérieur qui court. Clint Capela, il a un an de la fin de son contrat.
Ils vont
Oui,
le
voilà.
renouveler.
Non, non, mais c'est ça. Je pense qu'il y a des chances qu'il soit tradé. Donc, il y a plein de possibilités. Ils peuvent aussi se dire, on va trader ce pic-là pour rester compétitif et prendre un joueur un peu plus chevronné. Bon, ça reste compliqué, mais c'est oui, ça va être intéressant de voir une équipe comme ça qu'à ce pic-là. Et globalement, il y a des. J'ai l'impression, en tout cas, ça ressemble à une draft où, si il se confirme que c'est relativement moyen ou que les équipes sont comme nous et sont un peu dans l'expectative, sans savoir vraiment quoi attendre de chaque joueur, on peut voir peut-être beaucoup de trades comparé à d'autres années, quoi. T'as, typiquement, si San Antonio, je sais que tu penses pas que les Spurs ont intérêt à bouger et qu'ils ont intérêt à bien drafter, ce qu'ils sont capables de faire, et ils ont les picks 4 et 8, bah, les rumeurs sont déjà parties. Bah, avec le 4 et 8, ils vont prendre un joueur, un ou plusieurs joueurs très plus chevronnés, entourés Wembanyama, etc. Je suis d'accord avec toi, je pense pas que ce soit l'option qui soit envisagée maintenant, mais c'est une possibilité. J'ai déjà lu aussi, tu parlais de Houston, bah pareil, avec le pick numéro 3. Houston, c'est une équipe qui a vocation à jouer quelque chose de plus intéressant l'année prochaine. Ils étaient pas si loin que ça du play-in. Est-ce que le 3, ils ont intérêt à le garder? J'ai vu qu'ils étaient intéressés par Michael Bridges. Est-ce qu'en balançant le 3, ça suffit? Enfin, je suis très très intéressé de voir. J'ai l'impression que ça va beaucoup bouger, au moins au niveau des rumeurs et peut-être carrément sur le plan des transactions. Bon, j'avoue que les Pistons 5e, je pense que les fans doivent maudire le sort. Tu fais la pire saison, enfin la pire série de défaites de l'histoire et tu finis 5e. Portland, c'est pas fou, mais ils ont quand même déjà quelques talents qui me semblent
Oui, ils ont
pouvoir leur
déjà pas
assurer
mal
quelque
de jeunes.
chose. Bon, c'est pas. On verra. Hein, peut-être que dans cette QV, il y a des joueurs. On va se tomber sur des joueurs qui seront fantastiques et après coup, on se dira, oh là là, c'est dingue que ça se soit déroulé comme ça à la loterie. Mais très curieux de voir ce que vont faire les équipes, si elles vont décider de trader rapidement ou non, de grimper parce qu'elles ont identifié du monde. C'est une draft où il y aura des Français attendus très haut, donc c'est forcément quelque chose qu'on va regarder de très près.
Pour Sarr et pour Atlanta, je trouve le fit est très intéressant. C'est-à-dire que Sarr, premier choix, je trouvais ça un peu dangereux pour lui, parce que ce n'est pas un joueur qui va marquer beaucoup de points, en tout cas a priori. Si tu es premier choix à Washington, une équipe en reconstruction, tu es Alexandre Sarr, premier choix à Washington, on attend de toi que tu sois un candidat au rookie de l'année, que tu vois, en plus tu as l'exemple pour Wembanyama, ton compatriote, grand, pivot, mobile. Alors, Sarr, il n'est pas complètement dans le même style, mais tu vois, il y a un peu ce côté licorne chez Sarr comme chez Wembanyama, même si c'est à des degrés différents. Les gens ne vont pas comprendre si tu n'es pas à 20 points ou à 18 points ou si tu te retrouves à 9-10 points par match.
Ouais,
Un peu...
et ce sera le cas, hein. Il le sera pas du tout. C'est
oui,
il est bien plus près défensivement qu'offensivement, Charles. Donc,
exactement. Mais du coup, c'est pour ça que je trouve que ça colle parfaitement avec Atlanta. C'est que pour moi, les Hawks, ils ont besoin d'un protecteur de cercle. Capela, ils vont pouvoir l'échanger. Ça fera une monnaie d'échange. Je pense que de toute façon, au Okongwu. Ça fait final des années qu'il ne s'impose pas parce qu'il n'est toujours pas titulaire dans cette rotation. Donc, à un moment, quand tu ne t'imposes pas en tant que jeune, bah on voit ta franchise, elle draft un mec au même poste. Tu vois, c'est ce qui s'est passé. Alors, Killian Hayes, pour le coup, ils ont drafté dès l'année suivante au même poste. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Moi, je pense que Sarr, il peut aider déjà les Hawks défensivement, s'affirmer comme un pivot défensif, avoir moins de pression offensive et même se retrouver en tant que partenaire de pick and roll de Dejounte Murray et Trae Young, avoir quelques dunks faciles, mettre ses 10-11 points par match avec quelques paniers faciles, se développer tranquillement. Il y aurait Jalen Johnson, il y aurait une équipe très athlétique. J'aimerais beaucoup ce pick pour les Hawks.
Ça me fait penser à un
J'aime.
truc. Ça me fait penser à un
Ouais,
truc du coup,
vas-y.
c'est que. Alors je ne compare pas le talent des joueurs ni même le profil, mais c'est pour moi ce qui a facilité la très très belle saison de Chet Holmgren, c'est qu'il y avait déjà quelqu'un en place. Là, les gens attendaient beaucoup de lui, mais ils s'attendaient pas. Ils savaient qu'il y avait Shai Gilgeous-Alexander et d'autres joueurs assez de haut tour. Là, bon, toute proportion gardée, Trae Young, ce serait chez Gilgeous Alexander s'il y a pas de si Trae Young n'est pas tradé, évidemment. Hein.
Oui.
Et Jalen Johnson, ce serait un Jalen Williams quelque part du côté d'OKC, tu vois. Donc le fait que personne, t'as raison, hein, que personne ne s'attende à ce qu'il arrive et qu'il mette 20 points, parce que
Ou
personne
des
de
gens t'aimeraient
raisonnable,
plutôt
oui, ou
pour
des
Jalen.
oui, des gens téméraires. Mais vu que j'ai l'impression qu'ils vont quand même essayer de les séparer, je pensais que je partais plus de ce côté-là, mais t'as raison, c'est aussi très possible. J'ai l'impression que ça faciliterait beaucoup de choses et que Sarr, ce serait un bon fit effectivement avec les Hawks.
Il y a un autre. Y a une, pour le pic des Rockets, juste moi perso, je l'aurais gardé. Je ne sais pas si le 3 ça suffit pour Bridges d'ailleurs. Je trouverais ça étrange que ça suffise. Et j'aurais pris Nikola Topic. Et ça me permet de faire la transition parce que c'est celui qui est annoncé dans la mock draft là de. Non, pardon. C'est dans sa mock draft à The Ringer à Kevin O'Connor. Alors il a des ratés Kevin O'Connor, mais il suit ça avec attention et il est quand même renseigné sur le sujet, même si, comme je l'ai dit, il a dératé. Lui, il met Topic en 3. Moi, je pense que c'est un joueur qui peut être parfait pour Houston. Une espèce de combo guard qui sortirait du banc, qui dynamiterait leur banc, et voilà, que ça prépare déjà l'après Van Fleet. J'aime beaucoup cette idée-là. J'aurais pas forcément tradé, après, il faut voir les offres. Et pourquoi je te parle de Kevin O'Connor? Parce que Kevin O'Connor, il fait descendre énormément Rhys Hachey. C'est-à-dire que dans son classement des meilleurs joueurs, donc, oublions là maintenant cette histoire de draft. Juste dans son classement des meilleurs joueurs, il le fait descendre en 12.
12
pour lui, dans son. Il le fait descendre en 12. Okay. Je trouve que c'est trop. Je ne pense pas que Rhys Hachey descendra aussi bas. Et dans sa mock draft, il le fait descendre en 7. Donc il l'amène à Portland. Moi, ça me plairait. pourquoi je parle de Rhys Hachey aussi? Donc déjà, il a sa cote baisse auprès de Kevin O'Connor. Hein. Je crois qu'ESPN met encore Rhys Hachey premier. Pour moi, je ne vois pas pourquoi Atlanta prendrait Rhys Hachey en premier alors que tu as déjà Hunter et Jalen Johnson. Ça m'étonnerait fortement. Par contre, s'il pouvait descendre en 4, je sais que ça fait encore un peu cliché de l'amener à San Antonio, mais je pense que ça serait parfait en fait. Ah, oui. Je pense que ça serait parfait. Il n'y a de toute façon pas cette espèce de deuxième star que les Spurs aimeraient bien trouver. Rhys Hachey, il peut amener du lien sur beaucoup de choses. Ça collerait plutôt bien avec l'effectif en place. Et je pense que c'est une franchise qui sait développer ses talents. On l'a déjà vu par le passé. Et c'est un joueur qui a besoin d'un bon staff, parce qu'avec un bon staff, Rhys Hachey, il y a vraiment un potentiel quand même.
Ah oui, bah, complètement. Je suis d'accord. Il y a un monde où les Spurs prennent Rhys Hachey en 4 et Tijan Salah en 8. Je pense pas qu'ils vont faire du full français. Hein, mais en tout cas, cette loterie remet pas en cause, je pense, le statut des Français, ce qu'on attend des Français en termes de position là-dedans. On savait qu'on les attend top 10, les 3, au moins un de ceux-là dans le top 3, 4. Ça
remet pas en question. Salin, il sera vraiment top 10.
Je sais pas non plus, effectivement. J'ai lu des. C'est pareil, ça dépend des analystes qu'on lit. Tu vois, un coup The Athletic, un coup Bleacher Report. T'en as qui sont. Tu sais pas si c'est parce qu'ils ont parlé à des GM qui leur ont dit ouais, non, mais nous, c'est sûr, si on est placé là, on le prend. Là, on va avoir des sons de cloche un peu différents maintenant, parce que vu que les positions sont arrêtées, on va entendre des GM qui vont parler un peu plus précisément des joueurs et de leur profil, de leur place dans la draft. Il y aura de l'intox comme toujours, hein, mais là, il va falloir vraiment suivre. Les infos seront plus intéressantes, les différents workouts, tout ce qui s'ensuit. Là, c'est le moment où ça va être un peu plus pertinent, je pense.
Yes, bah justement, si la draft vous intéresse, sur un podcast dessus, ça sera cet après-midi, pardon.
Absolument.
Avec Chaï et Maxime. Vous avez peut-être déjà vu dans une Net Session, vous avez peut-être déjà lu certains de ces articles. Donc n'hésitez pas à checker ça cet après-midi, le podcast, sur la loterie et sur la draft. Vous parlerez sans doute rumeurs, j'imagine, prospects, etc. Donc voilà, ça sera une plongée beaucoup plus en profondeur sur la draft. Nous, Chaï, on va se retrouver demain pour un nouveau CQFR.
Absolument.
J'en profite au passage, si vous voulez envoyer vos questions pour le CQFR du samedi, je redonne l'adresse, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas donné, cqfr.reverse@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas, vous êtes peut-être tombé sur ce contenu samedi dernier, c'est peut-être la première fois que vous l'avez écouté, peut-être que vous êtes un habitué. Voilà, on répond à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à envoyer ça, cqfr.reverse@gmail.com. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao, ciao.
Bonne journée, ciao.